Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certains éléments constitutifs de notre corps ne pèsent presque rien et pourtant, ils jouent un rôle clé pour notre santé. Ce sont les minéraux. Et aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous proposons de nous intéresser à l'un d'entre eux, le fer. Le fer qui joue un rôle essentiel à un juste dosage. Car on va le voir, trop ou pas assez de fer, dans ces deux cas, cela comporte des risques pour la santé. Du fer, le corps d'un adulte en contient entre 3,5 mg et 5 mg par kilo, soit au total environ 4 grammes. Ça ne pèse pas lourd. Une carence en fer, ça peut rester dans un premier temps silencieux avant de se manifester sous la forme, par exemple, d'étourdissement, d'essoufflement et bien sûr de fatigue, de grande fatigue. À l'autre extrémité, la surcharge en fer peut elle aussi provoquer de la fatigue, comme des douleurs articulaires et à terme des atteintes du foie notamment. Alors trop ou pas assez de fer dans l'organisme, avec nos invités on verra pourquoi, quels troubles ou maladies peuvent expliquer certaines carences et quelles prises en charge pour y remédier. Et bien sûr vos questions, vos témoignages, c'est tout de suite dans Priorité Santé. La carence en fer est la carence nutritionnelle la plus fréquente au monde. Hémoglobine et fer, apport recommandé, quelles affections peuvent causer carence ou surcharge? Avec nous dans les studios de RFI, Dr Laurent Frenzel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hématologue, rhumatologue, responsable du centre de l'hémophilie à l'hôpital Necker Enfants Malades APHP à Paris. On va retrouver tout à l'heure en ligne du Congo le président de la Société africaine d'hématologie, le professeur Alexis Elira Dokekias, qui est chef du service d'hématologie du CHU de Brazzaville. Il est aussi directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose et des maladies rares, Antoinette Sassou-Nguesso. Et puis on parlera de l'anémie, des carences en fer, de leurs conséquences, mais aussi de la surcharge, avec une illustration en Irlande, reportage de Clémence Pénard, correspondante de RFI à Dublin, où l'hémochromatose est surnommée la maladie des Celtes. Et puis en fin d'émission, notre rendez-vous avec Haïti nous parle, séquence dédiée à la santé mentale en Haïti, insécurité, couvre-feu, vécu traumatique d'un habitant de Port-au-Prince aujourd'hui, Washington Jérôme, l'écoute du psychologue Ronald Jean-Jacques.
Priorité santé sur RFI.
Il va donc être question d'équilibre en fer. Avant de parler des symptômes des maladies associées aux carences, aux surcharges, peut-être pour bien comprendre le rôle dans notre organisme, docteur Frenzel, ça sert à quoi le fer dans le corps?
Oui, c'est une très bonne question. Le fer est indispensable. Ça sert avant tout à fabriquer des globules rouges. Ce qui va expliquer que une des conséquences du manque de fer, c'est une manque de globules rouges, ce manque de globules rouges qu'on appelle l'anémie. Il y a différents types d'anémie, mais la carence en fer peut être une cause d'anémie. Majoritairement, sert à fabriquer des globules rouges, mais le fer va aussi participer au fonctionnement d'autres organes, comme les muscles, le cerveau ou le cœur. Mais son rôle principal est un rôle pour la production de nos fameux globules rouges qui nous permettent effectivement d'apporter l'oxygène à nos tissus.
Il faut qu'on ait du fer, mais il faut qu'on ait la juste dose, parce que trop ou pas assez, ça ne marche pas. Précisément, c'est quoi la bonne mesure? Est-ce que c'est la même pour les hommes et pour les femmes?
Alors non, ce n'est pas la même pour les hommes ou pour les femmes, tout simplement parce que les femmes, notamment les femmes qui sont en âge de procréer, du fait des règles, vont perdre un petit peu de sang. Et de fait, cette perte de sang ont besoin de plus de fer pour compenser, justement, pour fabriquer ces fameux globules rouges, pour compenser cette perte de sang. Donc non, on n'a pas effectivement les mêmes besoins entre hommes et femmes. Et puis, j'allais dire aussi, en fonction de notre âge, notamment, c'est, comme on l'a dit, donc une femme qui est en âge de procréer, qui a ses règles, va devoir manger, en tout cas apporter plus de fer. Et puis aussi pendant la grossesse, on sait également que c'est un facteur où on a besoin de fabriquer encore plus de globules rouges, pour la femme, mais également pour l'enfant. Et donc, on est effectivement amené à augmenter, en tout cas, ses apports en fer.
Si on a envie de savoir où on en est par rapport à son fer, on fait quoi comme test, comme bilan sanguin?
Le bilan sanguin est relativement simple. On dose tout simplement le fer dans le sang. Alors, on a bien dosé le fer qu'on appelle qui circule, qui est le fer, le nom, c'est le même, et les réserves en fer qu'on appelle la ferritine, qui sont importantes. Et ça se fait de manière relativement courante et facilement, en tout cas, sur un simple dosage sanguin.
Alors, le fer m'a donné du fil à retordre. J'ai lu fer sérique, transférique, Transférine et ferritine, c'est quoi la différence?
Voilà, c'est juste des différentes formes de fer dans l'organisme. Le fer sérique, c'est le fer qui circule dans le sang. La transférine, c'est ce qui va permettre de transporter le fer dans les différents organes. C'est en fait la protéine de transport. Et la ferritine, ça montre les réserves qu'on a en fer.
Alors, les symptômes maintenant, quand on manque de fer, docteur Frenzel, comment savoir, c'est quoi ces signes qui doivent alerter pour savoir si oui ou non on doit faire une supplémentation, prendre notamment des compléments alimentaires ou un petit peu changer de régime alimentaire?
Oui, tout à fait. Ou d'abord déjà de faire une prise de sang pour voir si on est en carence en fer. Bien sûr, les signes. Alors, les signes, il y a des signes un peu, on va dire, non spécifiques. C'est un peu, effectivement, une perte de goût, des pertes de cheveux également. Ça peut, effectivement, être une conséquence, puisque les cheveux ont besoin également de fer. Mais surtout, la conséquence principale, comme on l'a vu, c'est une diminution des globules rouges, donc une anémie. Ça va être les symptômes de l'anémie qui vont apparaître. Alors, c'est pas rapide, hein, c'est une carence en fer. Pour qu'elle apporte une anémie, pour qu'elle entraîne une anémie, c'est sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Symptômes d'anémie, comme vous l'avez très bien dit, c'est la fatigue, la pâleur par exemple, essoufflement au moindre effort.
Mais ça veut dire que c'est déjà installé depuis longtemps ?
Oui, tout à fait. Donc une carence martiale, la plupart du temps, s'installe effectivement en plusieurs mois. Et le chiffre de globules rouges, donc l'anémie, s'installe progressivement et devient de plus en plus importante si on n'a pas corrigé effectivement cette carence.
Question un petit peu naïve, est-ce que du fait que ça s'installe en plusieurs mois, il va falloir quand même un certain temps pour faire remonter le dosage ?
Oui, absolument. Quand on veut effectivement refaire ses réserves en fer, ça ne se fait pas du jour au lendemain, notamment si on prend effectivement des compléments en comprimé ou en tout cas en les avalant. On met plusieurs. En général, on dit qu'il faut à peu près 4 mois pour refaire ses réserves en fer à partir du moment où on commence une supplémentation en fer.
Quand on est anémie, on peut manquer à la fois de fer et de folate. C'est quoi la différence?
En fait, les deux sont importants. Les folates, c'est la vitamine B9, également très importante pour la fabrication des globules rouges. Donc, si on est vraiment carencé dans les aliments qu'on mange, et en vitamine B9 et en fer, on peut tout à fait avoir les deux carences à ce moment-là.
Est-ce que dans les deux cas, il y a des médicaments, on va dire des cachets, qui peuvent faire remonter la pente?
Alors, dans le fer, oui, on a des compléments effectivement, en fer qui existent, et donc ça fonctionne relativement bien. Pas toujours très bien supporté, parce que ça constipe un peu, ça donne un peu les sels qui sont noirs. Ça, c'est normal, hein, c'est le fer. Donc, ça marche très bien. Et puis, pour la vitamine B9, c'est-à-dire les folates, oui, on a également des comprimés. Et ça, c'est vraiment important, notamment parce que l'anémie, il n'y a pas que la carence martiale, il y a d'autres effectivement causes d'anémie, et notamment, par exemple, la thalassémie ou la drépanocytose, hein, qui est une forme d'anémie, ce qu'on appelle par hémolyse. Et là, on a besoin de ces folates. On est souvent carencé en folates, et il faut prendre du folate
au long cours.
Au long cours, pour justement limiter un tout petit peu l'anémie dans ce cadre-là.
Alors, je pose encore une question idiote, mais c'est bien clair, c'est pas parce qu'on prend un cachet de 2 grammes de fer que ça va nous transmettre dans le corps 2 grammes de fer. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe.
Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, alors 2 grammes, c'est pas... Si on prend 2 grammes de fer, c'est quand même pas mal. Hein.
Ouais, c'est beaucoup.
Faut savoir qu'on a même à peu près 10% de ce fer qu'on va absorber et qui va être effectivement circulé dans notre sang. Donc oui, tout à fait.
Alors, on a parlé à peu près des symptômes de l'anémie. On va y revenir bien évidemment plus longuement. Maintenant, du côté de la surcharge en fer, docteur Laurent Frenzel, c'est quoi les principales atteintes ou maladies responsables de ces surcharges?
Alors, les surcharges en fer, donc ce qu'on appelle l'hémochromatose, hein, comme vous l'avez très bien dit, alors il y a différentes formes d'hémochromatose. Il y a les hémochromatoses dites génétiques, c'est un gène, et c'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent dans le nord de l'Europe, hein, donc c'est pour ça qu'on l'appelle effectivement la maladie des Celtes. Et puis, il y a également l'hémochromatose liée aux transfusions répétées, parce que les transfusions sanguines apportent énormément de fer, et ça peut également effectivement entraîner des conséquences. Alors, quelles sont ces conséquences de ce trop de fer, en fait, dans l'organisme? Ce trop de fer, il va se mettre à certains endroits, notamment certains organes, et surtout au niveau du foie et du cœur, et entraîner des dysfonctions du foie, par exemple une cirrhose, dans certains cas malheureusement des cancers du foie, quand ça évolue depuis un certain temps, et des insuffisances cardiaques par exemple.
Alors ça veut dire que quand on a pris connaissance d'un déséquilibre, on peut faire des explorations complémentaires pour voir s'il n'y a pas déjà, on va dire, les premières complications.
Tout à fait. Il est recommandé en tout cas, une fois dans sa vie, au moins de faire un dosage du fer pour savoir, alors si on est carencé bien entendu, ou au contraire si on a un excès de fer. Et donc là, avec la ferritine, donc ce fameux stock en fer, on peut rapidement savoir si on en a beaucoup trop. Si on en a beaucoup trop, à ce moment-là, il faut aller plus loin et chercher pourquoi, tout à fait.
On va parler de la prise en charge dans quelques instants de ces différentes affections. Tout de suite, un reportage pour illustrer cette surcharge en fer. On part pour l'Irlande. On l'appelle la maladie des Celtes, l'hémochromatose, maladie génétique qui est donc associée à une surcharge de fer dans le sang, atteinte plus fréquente au sein des populations d'origine celte. Donc, il s'agisse en France des Bretons, outre-Manche, les Gallois, les Écossais, bien sûr. Les Irlandais en retrouvent à Dublin, Clémence Pénard.
Blackrock, petit village côtier à une dizaine de kilomètres de Dublin. C'est ici que nous rencontrons Anna McCarthy, 63 ans. En août, l'année dernière, Anna a traversé la Manche à la nage en 14 heures. Objectif, sensibiliser la population sur les risques de l'hémochromatose.
C'est arrivé avec les Normands, les Celtes et les Vikings. Donc beaucoup de personnes en souffrent en Norvège, en Suède et en Finlande aussi. Et ils en sont très conscients, au point que certains de ces pays n'enrichissent plus leurs aliments, car un enrichissement en vitamines cause une accumulation supplémentaire de fer. Ici, il y a un manque flagrant de sensibilisation.
L'hémochromatose est caractérisée par une absorption excessive de fer par l'organisme, l'opposé donc de l'anémie. 22 000 Irlandais en souffrent, selon la Fondation irlandaise du cœur. Sur une population de 5 millions d'habitants, cette maladie devrait donc être considérée comme un vrai problème de santé publique. Maurice Manning, le président de l'Association irlandaise de l'hémochromatose, reproche lui aux autorités de ne pas mettre en place les moyens suffisants pour le dépistage.
Ce que nous disons au gouvernement, au ministère de la Santé, c'est qu'il s'agit d'une maladie très facile à détecter et facile à traiter si c'est pris à temps. Donc ça a du sens pour le gouvernement si c'est découvert assez tôt. Une simple prise de sang, ça ne coûte pas cher et tout le monde fait déjà des prises de sang. Donc il suffit d'y inclure un bilan de ferritine. Et si vous faites ça, vous évitez à la population de contracter des maladies très graves, ce qui coûte beaucoup d'argent.
Et ce manque de dépistage peut impliquer un retard de diagnostic. C'est précisément ce qui est arrivé à Maurice Manning. Dans son cas, c'est au hasard d'un bilan médical que le diagnostic d'hémochromatose a été posé.
J'avais pas loin de 40 ans. Et ce n'est que lorsque mon médecin a analysé mon sang qu'il a découvert que j'avais une énorme quantité de fer. Les toutes petites particules de fer s'accumulent dans certaines parties de votre corps. Dans mon cas, c'était dans mon foie. Et si je n'avais pas été traité, ça aurait pu provoquer une cirrhose du foie. À titre d'exemple, une personne normale, en bonne santé, a environ 120 unités de ferritine dans le sang. Mais quand j'ai été diagnostiqué, j'en avais 3000.
L'accumulation de fer se fait très lentement, donc les symptômes peuvent ne pas apparaître avant l'âge de 30 ans chez les hommes. Du fait des menstruations, la maladie se déclare plus tardivement chez les femmes. Les scientifiques ne sont pas certains de la raison pour laquelle ce gène est plus répandu chez les personnes d'origine celte. Et pour Maurice, c'est aussi vrai dans les régions où s'est implantée la diaspora irlandaise.
Pour d'étranges raisons, c'est plus fréquent parmi les Irlandais, à la fois en Irlande et dans les communautés d'Irlandais à l'étranger. Par exemple, il y a une incidence très élevée à Boston, où un grand nombre d'Irlandais ont déménagé et se sont mariés avec d'autres Irlandais. La maladie est assez endémique.
Ainsi, en Irlande, une personne sur 80 possède les deux gènes et est prédisposée à développer l'hémochromatose, comme le rapportait le mois dernier The Irish Independent, alors qu'en Europe, en général, il s'agit d'une personne sur 300. Et le plus souvent, la maladie est observée dans d'autres régions celtiques, telles que l'Écosse, l'île de Man, le Pays de Galles, la Cornouaille et enfin la Bretagne. Mais comme l'explique Hubert Hervé, un remède assez simple existe.
De deux ou trois saignées, et puis le sang s'est rétabli. Oui, on dit qu'on a une santé de fer, c'est quand on a trop de fer, justement.
Comme ce Breton de 89 ans vient de l'expliquer, un prélèvement sanguin répété plusieurs fois contribue à éliminer l'excès de fer et rétablir des taux normaux. Hubert fait ainsi régulièrement des dons de sang pour gérer sa condition. Selon la Fédération française des associations de malades de l'hémochromatose, en France, 300 000 personnes seraient prédisposées à développer la maladie.
Reportage de Clémence Pénard, correspondante à Dublin de RFI. 300 000 personnes prédisposées, bien évidemment, ça ne veut pas dire 300 000 personnes concernées directement par cette maladie.
Non, pas du tout. On va dire l'incidence et les symptômes peuvent être effectivement pénétrance variable, c'est le terme qu'on utilise. Donc on ne va pas développer forcément la maladie, mais comme le dépistage est quand même relativement facile à faire, c'est un simple dosage, donc c'est pour ça qu'on recommande au moins une fois pour tout le monde, une fois dans sa vie, de faire ce simple dépistage.
Docteur Frenzel, ça veut dire qu'une personne qui est atteinte d'hémochromatose, qui donne son sang ne va pas être trop riche en fer, il peut quand même être utile pour
absolument
la transfusion.
Oui, tout à fait, il est utile. Hein. Et donc, comme on l'a très bien expliqué sur le reportage, on peut être amené à faire ce qu'on appelle des saignées. Alors c'est sûr que le terme fait un peu voilà, Moyen-Âge, un peu ancien, mais ça marche très bien. On enlève tout simplement le sang et le sang, on le récupère pour le donner. Bien entendu qu'on peut le réutiliser.
Ça veut dire que quand on fait une saignée d'une personne comme ça, ça va servir à quelqu'un d'autre. C'est pas... Parce que si je prends l'exemple, par exemple, de la drépanocytose, là aussi, ou la bêta-thalassémie, où on peut avoir des saignées, hein, je ne me trompe pas, dans
oui,
certains cas, pour certaines, oui, certaines options, dans ces cas-là, on ne va pas reprendre le sang, par
ah non,
contre.
Parce que ouais, les globules rouges ne sont pas normaux, puisqu'effectivement, on parle de drépanocytose ou de thalassémie, donc non, on n'utilisera pas le sang.
J'ai précisément, justement, si on parle de thalassémie, là aussi, ça peut être associé à une surcharge en fer, docteur Frenzel ?
Oui, ça peut être aussi associé à une surcharge en fer, pour différentes raisons, dont notamment la thalassémie, une des conséquences, c'est ce qu'on appelle une hémolyse, c'est-à-dire une destruction du globule rouge, parce qu'il n'est pas tout à fait correctement formé, et cette destruction va libérer le fer qui est à l'intérieur de ce globule rouge. Et puis effectivement, ce fer peut être en excès.
Dans ce cas-là, saigner, est-ce qu'il y a d'autres remèdes ?
Alors la saignée, il faut savoir que dans ce cas-là, elle n'est pas si simple que ça. Pourquoi ? Parce que autant dans l'hémochromatose, il n'y a pas d'anémie, c'est-à-dire que le chiffre d'hémoglobine est normal. Sauf que dans la thalassémie, ce n'est pas tout à fait le cas, on est anémié. Donc la saignée va aggraver souvent l'anémie, donc c'est un équilibre. Alors on a d'autres médicaments, ce qu'on appelle des chélateurs en fer, qu'on propose dans certains cas. C'est quelque chose qui va empêcher le fer d'être absorbé et ça permet quand même aussi de limiter cette surcharge.
Et c'est vrai que ça paraît compliqué quand on réfléchit, on dit alors on peut être anémié et avoir une surcharge en fer. On a l'impression que c'est finalement complètement paradoxal et ça ne l'est pas.
Pas du tout. Donc non. Et c'est un problème effectivement pour être traité ou même effectivement on peut avoir des maladies de la moelle osseuse qu'on appelle des anémies liées effectivement à un dysfonctionnement de la moelle osseuse. On a besoin de transfusions régulières. C'est exactement le même problème. On va se retrouver dans une situation de surcharge en fer mais pas pouvoir faire de saignée puisqu'il y a une anémie effectivement qui est en place.
Alors on va consacrer la deuxième partie de l'émission plus particulièrement aux carences. On va reparler bien sûr plus longuement de l'anémie, dépistage maladies associées et les conseils, la prise en charge pour éviter les complications. On va se retrouver juste après Dadju et Taïk avec Makila Wablé.
Salima be sina kacha motema tu sala kabande kole loto kobundana esa namba la suka to benga na makila aha makila nanga o salima be sina kacha motema tu sala kabande kole loto kobundana esa namba la suka to benga na makila. Oh mon frère, ne m'appelle plus jamais, tu étais mon frère.
Priorité santé sur RFI, carence ou surcharge en fer, quelles conséquences pour la santé? Surtout, quelle prise en charge? Nous sommes toujours en compagnie du docteur Laurent Frenzel, hématologue, rhumatologue, responsable du centre de l'hémophilie à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Docteur Frenzel, l'OMS estime que l'anémie, c'est un problème majeur de santé publique. Ça concerne quand même 40% des enfants entre 6 mois et 5 ans, 30% des femmes en âge de procréer. Est-ce qu'il y a des disparités régionales à l'échelle planétaire entre les individus anémiés et les personnes qui sont carencées en fer, justement, qui ne sont pas carencées?
Alors oui, forcément, il y a une disparité. Il y a certaines zones où il y aura plus d'anémie, notamment, comme on l'a dit, du fait de maladies comme la thalassémie et la drépanocytose, qui est un facteur, bien sûr, aggravant d'anémie. Pour peu qu'on rajoute encore une carence martiale, c'est sûr que le degré, en tout cas la sévérité d'anémie, va être plus importante, absolument.
Et ce sont des maladies qu'on retrouve avec des bassins de population différents. Pour la thalassémie, davantage le Moyen-Orient, le bassin méditerranéen. Et on sait aussi, pour la drépanocytose, dans les communautés afro-caribéennes. On peut manquer aussi de fer à cause de l'alimentation. Est-ce que le rattrapage, le rééquilibrage, ça va se faire rapidement, docteur Frenzel?
Non, ça ne se fait pas rapidement. Il faut plusieurs mois pour pouvoir compenser une carence en fer. Et c'est vrai que l'alimentation est primordiale. Alors, ce qu'il faut bien savoir, les aliments qui apportent le plus le fer, c'est certainement pas les épinards. Hein, donc on peut revenir là-dessus.
Ça n'existe pas. C'est la boîte de conserve.
Voilà, c'est une fausse lecture de la teneur en fer. Elle a été multipliée par 10 alors qu'elle est 10 fois moins inférieure. Donc c'est pas, alors manger comme des épinards, c'est bon, hein, bien sûr, c'est un légume, mais ça n'apportera pas beaucoup de fer.
Plus intéressant peut-être pour le transit d'ailleurs.
Tout à fait.
Voilà. Donc pour le fer, on va chercher quoi comme type d'aliment?
Ce qui va apporter le plus de fer, qui va être le mieux absorbé par les intestins, reste tout ce qui est les viandes rouges, poissons, mais surtout les viandes rouges, donc ce qu'on appelle fer héminique, donc ce qui va de loin apporter le plus de fer. Donc c'est vraiment la viande rouge. Après, il y a bien sûr d'autres légumes qui peuvent en apporter, mais c'est moins bien absorbé, il faut en manger en plus grande quantité. Donc la viande reste effectivement la source principale de fer.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait se mettre un régime végétarien, c'est-à-dire excluant la viande, devrait d'abord en parler à un médecin pour voir où en est son niveau de fer pour éviter une carence majeure?
Tout à fait. Et c'est très fréquent, les carences. Hein. Souvent, effectivement, on doit prendre des compléments pour limiter cette carence. Donc oui, évidemment, je pense que voir un médecin, faire un dosage avant de débuter ce type de régime, oui, je pense que c'est indispensable.
Est-ce que là, il faut qu'il y ait forcément une supplémentation en allant à la pharmacie acheter un complément alimentaire, ou est-ce que un rééquilibrage alimentaire, dans la plupart des cas, ça peut suffire?
La plupart des cas, ça peut suffire, mais je pense que de doser effectivement le fer, de savoir où on est, c'est quand même effectivement important. Pour peu, effectivement, comme chez la femme, la femme qui a des règles, avec des règles abondantes, perd effectivement un peu plus de sang, peut-être que son apport doit être plus important. Donc je pense que voilà, le doser, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement assez important, et ça permettra justement d'équilibrer ses aliments, en tout cas d'adapter sa manière de se nourrir en fonction effectivement de son taux de fer.
Et l'OMS fait un gros plan justement sur l'anémie chez les femmes de 15 à 49 ans en Afrique, estimation mondiale, hein, à peu près 30%, 29,9% en 2019, mais on atteint 51,8% en Afrique de l'Ouest, 43,2% en Afrique centrale. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire en la matière, en termes justement d'apport en fer pour ces femmes en âge de procréer. Tout de suite, précisément, question d'une auditrice.
RFI à Paris, 89 FM.
En ligne de la région parisienne, on retrouve Nassilata à Champigny-sur-Marne. Nassilata, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous avez 47 ans. Votre carence en fer, ça remonte à très loin, ça remonte à quand?
Ça remonte depuis mon adolescence.
Vous en êtes rendu compte comment, Nassilata?
C'est à 15 ans, quand j'ai eu mes règles. Et pendant la période de mes règles, j'avais toujours des vertiges. Et après une consultation, le médecin a dit que c'était une carence de fer.
Est-ce que vous aviez des menstruations particulièrement abondantes, ou on va dire que c'était plutôt normal?
Les deux premiers jours, abondantes, ouais. Oui.
Oui. Et quand le médecin vous a dit carence en fer, il vous a donné une ordonnance pour avoir une supplémentation en fer?
Oui, il m'a donné une ordonnance de prendre pendant les règles.
Oui, et vous avez suivi l'ordonnance?
J'ai suivi l'ordonnance, mais pas continuellement.
Pas à la lettre, on va dire.
Pas à la lettre, oui.
Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à cette anémie, et vous en êtes où par rapport à votre santé en général?
Par rapport à... En fait, rien n'a changé parce que dès que je me présente chez le médecin, après des analyses, on me prescrit toujours des fers.
Oui.
Un traitement de 3 mois. Ça a toujours été comme ça.
Mmh.
Et je n'ai pas une santé très fragile, mais j'ai une fatigue.
Une fatigue au long cours.
Oui.
Et en tant que femme, est-ce qu'il y a eu certains projets qui ont été finalement que vous n'avez pas pu mener à terme à cause de cette anémie? Est-ce que vous avez des doutes par rapport à ça?
Oui, j'ai des doutes parce que je n'ai jamais tombé enceinte.
Oui.
Et qu'après des traitements chez les gynécologues, on ne m'a jamais diagnostiqué une maladie quelconque. Je n'ai pas l'endométriose. Ils n'ont jamais. Oui. Parfois, on constate un kyste fonctionnel. On m'a expliqué que c'est un kyste qui vient et qui repart.
Et ce problème de fertilité, en fait, vous dites, je n'ai jamais réussi à tomber enceinte. À partir de quel moment vous avez eu un projet d'enfant? C'est quelque chose qui remonte à combien d'années?
De 28 ans, 27 ans.
Ah oui, assez tôt. Donc ça fait très longtemps. Ça veut dire que vous avez été prise en charge par un service, justement, qui s'attache à ces questions de fertilité, c'est ça?
Oui.
Ouais. Donc vous avez des questions pour notre invité, spécialiste des maladies du sang, par rapport à un petit peu ce parcours très long avec l'anémie. Allez-y, je vous en prie, Nassilata.
Oui. Ma première question, est-ce que l'anémie est une maladie incurable?
Alors non, pas du tout. Surtout quand il s'agit d'une anémie, comme vous le dites, liée au fer. Hein. Non, le fait de corriger le fer va également corriger votre anémie. Alors j'entends bien. À chaque fois, effectivement, vous avez probablement des règles abondantes, ce qui explique d'ailleurs votre anémie, parce que le fait de perdre beaucoup de sang, on perd également beaucoup de fer, et qu'à chaque fois vous deviez prendre 3 mois de traitement. Mais comme vous le dites très bien, c'est souvent un problème hein, de ce traitement, c'est de le continuer parce que c'est pas toujours agréable et qu'au bout d'un moment on en a marre, ce qu'on peut tout à fait entendre. Mais à partir du moment où on corrige le fer, normalement l'anémie doit également se corriger. Alors peut-être que notre façon, alors dans certains cas, quand les comprimés sont compliqués à prendre, on peut également recharger le fer avec des perfusions en intraveineuse qui marchent également très bien, qui est une autre possibilité pour justement garder le fer plus longtemps.
Nassilata, après une prise de fer, est-ce que vous faisiez des prises de sang de contrôle pour voir si c'était bien remonté dans votre organisme?
Oui, après 3 mois. Oui, j'ai fait et le médecin me dit oui, c'est bon.
C'est bon. Et vous continuez à ce moment-là? Vous arrêtez ou vous continuez?
Non, il me dit d'arrêter.
Ah.
Il me dit d'arrêter.
Oui, donc après, ça c'est. Alors après, il faut aussi voir comment est-ce que vous mangez, si vous mangez suffisamment de viande, donc tout ce qui peut apporter du fer, mais peut-être que de le prendre en continu, ça aurait été peut-être également une solution. Il n'y a pas de conséquences, on peut prendre en continu le fer. C'est juste que, bon, c'est sûr que ce n'est pas toujours agréable de prendre des médicaments tous les jours, mais pour justement éviter que ça revienne, de prendre en tout cas un ou deux comprimés de fer par jour, ça permettrait, je pense, d'éviter que votre anémie revienne tous les 3 ou 4 mois, par exemple.
Nassilata, vous aviez une autre question ?
S'il vous plaît. Et justement, comme le docteur vient de dire qu'il faut aussi contrôler ce qu'on mange, parce que quand j'étais adolescente, moi, je suis née dans une famille nombreuse et il y a mes frères et sœurs, ils n'ont jamais compris que j'ai une carence en fer et pourtant, on mange la même chose. Pour eux, j'étais juste paresseuse. Alors, je voulais savoir quelle est la cause de l'anémie.
Ben déjà, vos frères, ils n'ont pas de règles. Hein. Excusez-moi de vous le dire, mais ça, a priori,
oui,
c'est vérifié.
Hein.
Sans aller leur poser de questions indiscrètes, vos frères n'ont pas de règles. Est-ce que vos sœurs avaient aussi des règles abondantes?
Non.
Voilà. Bon, ben écoutez, je pense que vous pourrez leur dire ça la prochaine fois. Vous n'êtes pas du tout paresseuse. Vous n'avez pas eu de chance. Vous aviez des règles abondantes, ce qui est ni agréable à vivre, ni agréable à supporter. Donc, en général, les gens qui ont ce genre de choses, il ne faut pas leur trouver des défauts. À l'inverse, il faut plutôt les encourager et les accompagner. Par rapport à votre projet d'enfant, vous en êtes où aujourd'hui, Nassilata, sauf si je suis trop indiscrète?
Je laissais tomber.
Ouais. Ça va quand même? Vous avez été aidée, accompagnée un petit peu pour ça?
Oui.
Et ça va bien aujourd'hui?
Oui, ça va bien.
Écoutez, on vous souhaite une excellente journée. Un grand merci à vous pour votre appel et ce témoignage. Docteur Frenzel, on va prendre maintenant la direction du Congo pour retrouver l'un de vos confrères.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et en ligne avec nous, professeur Alexis Elira d'Okekias, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Société africaine d'hématologie, chef du service d'hémato au CHU de Brazza, également directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose et des maladies rares, Antoinette Sassou-Nguessou, professeur, maladie génétique fréquente dans votre région d'Afrique centrale, qui est associée à l'anémie, on pense bien sûr à la drépanocytose. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces sujets drépanocytaires sont particulièrement concernés par cette anémie ?
Bon, l'anémie au cours de la drépanocytose est une constante dans la mesure où le globule rouge du patient drépanocytaire contient une hémoglobine anormale. Et cette hémoglobine anormale, malheureusement, s'enroule. Et quand elle s'enroule, elle vit moins longtemps que l'hémoglobine d'un sujet normal. Donc l'hémoglobine S anormale, quand elle se polymérise, donc à travers ses fibres, elle s'enroule. Évidemment, elle a une demi-vie qui est moins longue que celle des patients qui n'ont pas cette anomalie génétique. Donc ça, c'est le premier constat. Donc de façon chronique, cette anémie peut être tolérée et le patient vit avec. Mais cependant, au cours des accès aigus, qui peuvent être souvent liés à des complications infectieuses, cette anémie s'aggrave et la première complication infectieuse chez nous, c'est le paludisme. Mmh. Donc le paludisme détruit les globules rouges et en détruisant les globules rouges, elle aggrave l'anémie. Et en deuxième lieu, nous avons les infections dues à des bactéries qui peuvent être occasionnées par des infections à partir de lave respiratoire ou alors chez un sujet un peu plus âgé à partir des voies biliaires, des voies urinaires. Et tout ceci peut précipiter le taux d'hémoglobine et entraîner l'anémie.
Est-ce que vous avez des indications, professeur, des chiffres sur la fréquence de cette atteinte d'anémie aiguë chez vos patients à Brazzaville ?
En tout cas, au Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou-Nguessou, qui est un centre de référence sous-régional qui a ouvert depuis les années 2017, nous avons mené des études. Oui. Et l'anémie reste encore malheureusement fréquente et ça reste la première cause d'hospitalisation ou de crise aiguë chez les patients drépanocytaires. C'est ainsi que, dans ce contexte, nous avons une fréquence du taux d'anémie à l'admission qui varie entre 30 et 42% selon les études qu'on a menées, parce qu'il y a eu deux séries d'études qu'on a menées, de 2017 à 2020 et de 2020 à 2023, qui rapportent ces chiffres. Et parmi les patients admis, et les patients sont encore admis malheureusement au stade d'anémie très aiguë, avec des taux d'hémoglobine parfois frisant, le taux en dessous de 2 grammes par décilitre. Et à partir de là, voyez-vous, ce sont des cas très graves d'anémie. Et les enfants viennent avec un grand ictère, avec une jaunisse importante au niveau des yeux. Ils pissent parfois comme du Coca-Cola. Et quand ils viennent, ils sont très fatigués, parfois en collapsus. Et évidemment, ça crée un risque de mortalité important.
Une cause de mortalité, on l'a bien compris. Professeur, on a une question Facebook de Billy Diaoundé qui demande, je vous lis son message, quelles sont les mesures à prendre pour un drépanocytaire qui souhaite éviter les anémies susceptibles de conduire à une transfusion ? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ?
Bien évidemment, c'est la première chose, c'est celle, la base de l'éducation thérapeutique.
Oui.
La base de l'éducation thérapeutique, c'est faire que les patients drépanocytaires comprennent que la drépanocytose n'a plus le même visage que ce qu'il y a plus de 20 ans. Actuellement, notre patient le plus âgé, il a près de 81 ans, il est adulte. Et la dame la plus âgée qu'on suit, elle a plus de 80 ans, elle a eu près de 6 enfants. Donc par conséquent, si ces gens ont un parcours aussi long, c'est parce qu'ils ont été bien éduqués. Tout simplement parce qu'ils prennent des précautions importantes pour éviter d'avoir l'anémie. Et pour éviter d'avoir l'anémie chez nous, il y a deux choses essentielles. Premièrement, une bonne hygiène de vie. Cette hygiène de vie permet de limiter le risque d'attraper, d'être piqué par des moustiques qui entraînent le paludisme.
Donc la moustiquaire.
Voilà, moustiquaire imprégnée d'insecticides. Deuxième mesure, c'est vraiment une hygiène corporelle. Bien se brosser des dents, éviter d'avoir le contact avec des gens qui portent le rhume, qui sont infectés, qui toussent, ou avoir une hygiène de vie correcte pour éviter les infections bactériennes, parce que les infections bactériennes constituent la première cause. Et en plus, il y a donc le calendrier vaccinal de l'enfant drépanocytaire qui doit être rigoureux. Donc une vaccination contre les germes comme le streptocoque pneumonie, donc le pneumocoque, comme l'hémophilus influenzae, limite le risque d'infection respiratoire et par conséquent limite le risque d'anémie hémolytique qui aggrave dans le contexte l'anémie chronique de façon drépanocytaire.
Et on a compris, il peut y avoir des transfusions. Dans ce cas-là, est-ce que ça peut aussi poser un problème, comme on l'évoquait en première partie d'émission, un problème de surcharge en fer ?
Bien évidemment, la transfusion sanguine est indispensable et incontournable en cas d'anémie aiguë. À partir de là, nous les praticiens,
quand le patient vient présent des signes d'intolérance d'anémie, il faut bien sûr le transfuser pour éviter pour corriger donc le taux d'hémoglobine, pour éviter qu'il ait des complications à l'anémie. Parce que quand l'anémie s'installe pendant longtemps et on sous-estime le risque de transfusion, évidemment, on prédispose cet enfant, quand il va être adolescent ou adulte, à avoir donc une défaillance cardiaque, à avoir une défaillance rénale et parfois des attaques cérébrales qui peuvent être mortelles. Donc, par conséquent, l'anémie doit obligatoirement être corrigée. Et pour la corriger, il faut la transfusion. Et la transfusion, c'est qu'il faut sélectionner les meilleurs produits sanguins possibles qui sont compatibles avec l'enfant, ce qui n'est toujours pas le cas facile chez nous en Afrique.
Et toutes ces explications, on comprend vraiment pourquoi c'est essentiel que les patients puissent vraiment accéder aux différents traitements partout dans le monde. C'est pour ça qu'il faut faire un effort particulier encore pour tous les patients concernés par la drépanocytose. Merci, un grand merci à vous, professeur Dokekias, pour ces explications. Docteur Frenzel, on arrive à la conclusion de notre émission. Il nous reste environ une minute. Alimentation pour prévenir l'anémie, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'il y a certaines boissons ou certains produits qui peuvent jouer un rôle négatif dans l'absorption du fer?
Oui, il y a certaines effectivement boissons, notamment tout ce qui accélère le transit. Ben, c'est sûr que les aliments qu'on ingère, si on accélère le transit, n'ont pas eu le temps effectivement d'être absorbés.
Excusez-moi, on a parlé par exemple des femmes qui souffraient d'anémie. Est-ce qu'on peut dire à ces dames, évitez de boire trop de thé, par
oui,
exemple. Je suis concrète.
Voilà. Oui, tout à fait. Concrètement, oui, absolument. Oui, absolument.
Pourquoi le thé, c'est...
Parce que ça va activer la vidange gastrique, et donc ça va accélérer tout simplement la vidange. Et à ce moment-là, les aliments n'ont pas eu le temps d'être absorbés correctement.
Est-ce simplement. Qu'il y a aussi des médicaments qui sont contre-indiqués pour l'anémie?
Alors, c'est un peu plus compliqué, en fait, de contre-indiquer absolument des médicaments, mais tout ce qui, effectivement, empêche l'absorption, oui, évidemment. Et au contraire, il y a des médicaments qui vont plutôt favoriser l'absorption, comme souvent, chez les femmes enceintes, on recommande de la vitamine C, par exemple.
Vitamine C, un jus d'orange. Exactement. Plus de jus d'orange et moins de thé pour mesdames qui êtes anémiées. Un grand merci à vous, docteur Frenzel, pour votre éclairage.
Merci.
Toutes ces réponses, c'est le moment de retrouver notre rendez-vous avec Haïti nous parle.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti nous parle, notre rendez-vous pour garder le contact et écouter la parole des Haïtiens, des Haïtiennes, ceux qui vivent au pays, ceux qui vivent ailleurs, les voix de celles et de ceux qui résistent à la violence ou à la distance. S'exprimer et être écouté par un professionnel de la santé mentale qui lui aussi partage cette réalité traumatique. Haïti nous parle, ça commence en musique.
Le ou gen problème, la tristesse a déchiré, ou senti ou perdu espoir. Souriez-je, frère moi, depuis ou gen la vie, ou gen espoir. Ou a besoin de pas gain espoir, pas gain guérison. Docteur pas joint solution. Bingar jita crié ou lamenter, même leur senti qu'on désespéré. Bingar suspend bataille, met tes âmes sous épaule jusqu'à ce qu'on joigne victoire. Ou senti ou découragé, senti que on déchiré. Moi courage, des fois moi, on pas besoin de crier. Pas besoin de crier.
La vie pas finie,
pas finie, pas finie.
Je suis Washington Jérôme, je vis à Port-au-Prince, j'ai 30 ans.
Washington Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Cette chanson que vous avez choisi de partager avec nous, Abner G, La vie pas finie, pour inciter en quelque sorte à tenir bon. Est-ce que vous y arrivez, vous, en ce moment, à Port-au-Prince, à tenir bon?
Je pense beaucoup à mon avenir et je pense aussi à la situation chaotique de ce pays. Et je dis, est-ce que ça va changer quand même un jour? Quand il y a du couvre-feu, ben, il est trop tard. Donc, il n'est pas bon de rester au dehors, donc il faut rentrer, tout ça. Ben, on ne pouvait pas circuler librement, on ne pouvait pas reprendre le travail.
Ça veut dire quoi? Dans la rue, on entend des tirs de rafales, on entend des coups de feu?
Oui, oui, effectivement. Des bruits donc, et des tirs. Les gens du quartier sont vraiment frustrés et ils se cachent sous le toit de leur maison.
Comprendre la situation, est-ce que vous, Washington Jérôme, vous avez vécu personnellement des scènes de violence et des attaques?
Oui, je me rappelle, j'étais du côté de Belader. C'était en juillet 2023, donc il y a une invasion de personnes lourdement armées. Je ne pouvais pas rentrer à la maison, donc j'ai passé environ une semaine ailleurs jusqu'à ce que la situation est rétablie ou reprenne la confiance dans la zone, tout ça.
Est-ce que ces situations effrayantes, ça vous empêche de dormir?
Quelquefois, ça m'empêche de dormir.
Vous faites des cauchemars?
Beaucoup de cauchemars. Je me rappelle, un jour, je voyais des personnes lourdement armées. C'était dans une zone que j'ai l'habitude de fréquenter. Donc, j'ai vu une autre personne que je sais, que je connais bien. Je vois que ces personnes-là sont en train de décapiter des gens, mais elles ne m'ont pas vu. Donc, et puis après, dans le cauchemar, donc, je me réveille rapidement.
Est-ce que vous diriez, Washington Jérôme, que vous vivez un traumatisme?
J'ai pas eu l'opportunité d'aller chez un médecin. Si je pouvais, je le ferais, mais il n'y a pas de moyens économiques ou ça, donc je suis juste resté dans mon silence. Mais je sais qu'il est nécessaire d'aller voir un médecin pour pouvoir me communiquer l'état de ma santé.
Où est-ce que vous trouvez précisément votre force et votre calme?
Alors, avant tout, je suis chrétien, c'est dans la prière. Dans la prière. J'ai quelques amis, j'ai une sœur avec moi. Elle est très importante pour moi. Elle me soutient sur le plan économique. Elle me soutient aussi sur le plan alimentaire. Je me sens dans la barre. Par exemple, je ne parle pas beaucoup.
Ça veut dire que vous mettez à l'abri, mais si vous aviez l'occasion, vous auriez envie de continuer à parler avec des amis, à vous amuser, c'est ça quand même?
Oui, c'est ça quand même. Par exemple, si j'avais de l'argent, aller à la piscine, à la plage, tout ça. S'il y a deux routes, il y avait de circulation aussi.
On ne peut plus aller à la mer, hein?
Non, on ne peut plus aller, depuis des années. Autrefois, j'ai dit que quand la situation est fiable, je me rendrai justement à la plage, parce que j'aime pas trop la piscine, j'aime plutôt la plage.
C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite, Washington Jérôme, faire un grand plongeon dans la mer des Caraïbes. Washington Jérôme, entre cauchemar et prière, et à son écoute, Ronald Jean-Jacques, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous êtes psychologue, professeur à l'Université d'État d'Haïti. On entend cette détresse, Washington Jérôme, qui s'imagine partir pour avoir enfin le droit de vivre.
La détresse, elle est générale. La peur au ventre, c'est tous les Haïtiens qui le vivent. Comme vous l'avez vu dans le cas de Washington, il a été agressé par des hommes en armes à Belader, donc en dehors de Port-au-Prince, dans le centre. Et donc, c'est une détresse généralisée dans ce pays.
Est-ce que vous avez le sentiment, Ronald Jean-Jacques, qu'avec le couvre-feu, qu'avec le départ du Premier ministre, cette détresse, elle a encore augmenté?
Elle a augmenté parce que les bandits se sont enhardis. Maintenant, ils sont plus offensifs. Ils prennent beaucoup plus de terrain, ils ont attaqué les institutions publiques, ce qui fait qu'on est livré à nous-mêmes face à des gangs super armés et qui tirent à tout bout de champ dans la nuit, dans la journée. Vous savez, quand il y a couvre-feu, ça devrait être les forces de l'ordre qui devraient être présentes dans les rues. Ce n'est pas le cas. Les bandits continuent d'attaquer, ce qui fait que le couvre-feu ne nous rassure pas du tout.
On entend dans son témoignage Washington Jérôme dire qu'il n'a finalement plus de quoi se nourrir et il dépend en quelque sorte de sa sœur, ce qui augmente encore plus sa détresse.
Oui, oui. Et j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation parce que la semaine passée, c'était possible d'aller acheter dans certains supermarkets à Pétionville, mais ils ont attaqué les rues de Pétionville, ils ont attaqué les maisons dans les hauteurs de Pétionville, ce qui fait que même à Pétionville, maintenant, les magasins sont fermés. Ce qui fait qu'effectivement, il y a plein de gens qui sont comme Washington, atterrés, fermés chez eux et qui n'ont même plus maintenant de quoi manger.
L'insécurité, l'inquiétude, les insomnies. Et notre auditeur, Washington Jérôme, pour reprendre pied, eh bien, sa seule solution, c'est de s'isoler et de prier.
Heureusement, et ça je vous le dis tout le temps, heureusement que c'est un peuple très croyant. Ils sont à la fois catholiques, protestants, vaudouisants. Donc ils ont toujours un Dieu à qui se vouer, à qui prier et leur permettre de garder espoir que demain, comme il le disait, sera meilleur.
Et qu'il pourra retourner à la mer. Il y a des gens qui pensent à des choses comme ça, retrouver des moments d'insouciance où aujourd'hui l'insouciance, elle a complètement disparu.
Ah, tout à fait. Donc, Caroline, je peux vous assurer que il n'y a pas une personne vivant à Port-au-Prince qui ne rêve pas un jour de pouvoir retourner à la mer. Parce que nous sommes entourés de mer. C'est une île. Et Port-au-Prince, c'est, nous sommes à côté de la mer. Donc, au sud, au nord, on a accès à différentes plages, de belles plages. Que l'on soit pauvre ou riche, hein, on peut imaginez un samedi ou un dimanche matin aller à la mer, revenir dans l'après-midi. Cette pratique-là, nous l'avons oubliée depuis 5-6 ans. C'est un rêve que tous les Port-au-Princiens ont depuis quelques années.
Un joli rêve. Merci beaucoup Ronald Jean-Jacques. À bientôt pour un autre moment d'écoute et de partage dans Haïti nous parle dans Priorité Santé. À Jacmel, à Montréal, à Orlando. Si vous voulez témoigner, écrivez-nous sur Facebook. Haïti nous parle revient bientôt. Merci à Washington Jérôme, merci à vous Ronald Jean-Jacques, on se retrouvera très prochainement. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare, réalise votre émission. Louise Kaledek, Talim Pouo, Damien Roucou et Tom Malky, Didier Bleu, Laurent Hérault avec nous aujourd'hui à la réalisation. Et bien sûr, vous pouvez réentendre Priorité Santé quand vous le souhaitez en podcast sur l'application RFI Pure Radio. On se retrouve tous les jours de la semaine en direct, 9h10 temps universel.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.